Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct et en podcast. Je vous propose de réviser de façon ludique quelques règles d'orthographe, de grammaire et de vocabulaire. On le sait, les fautes de français sont parfois discriminantes dans la vie de tous les jours, au travail, à l'école. Nous sommes souvent jugés sur notre niveau de français et on ne peut pas s'empêcher de distribuer des zéros pointés à ceux qui trébuchent sur un participe passé dans un courriel ou ceux qui commettent un barbarisme lors d'un entretien d'embauche. Nos invités vous délivrent quelques règles pour s'en sortir la tête haute. Avec nous, l'écrivain et journaliste Daniel Lacote, la correctrice Muriel Gilbert et l'ancien professeur et auteur prolifique Jean-Joseph Julot. Toutes vos questions au 01 45 24 7000. Racontez-nous si les fautes de français vous ont joué des tours dans votre vie. Les élèves qui n'ont pas classe ce mercredi peuvent évidemment nous appeler. Voilà, on vous attend nombreux. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Vos enfants ne font pas de fautes d'orthographe, de français, de vocabulaire?
Non, évidemment.
Évidemment. Professeur de philosophie, vous nous délivrerez tout à l'heure une ordonnance philosophique pour faire moins de fautes.
Oui, une petite perfusion de Michel Foucault, voyez-vous. Pour essayer de soigner aussi notre rapport à l'orthographe.
Ah ben j'ai hâte, hein. À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébi.
Et pour nous aider à faire moins de fautes de français, trois experts. Bonjour Muriel Gilbert.
Bonjour.
Correctrice au journal Le Monde, vous publiez à la librairie Vuibert encore plus de bonbons sur la langue, sous-titré Le français n'a pas fini de vous surprendre. Bonjour Daniel Lacote.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et journaliste et vous publiez chez First 100% zéro faute, maîtrisez enfin les subtilités de la langue française. Bonjour Jean-Joseph Julot.
Bonjour.
Ancien professeur, auteur prolifique, on vous doit notamment l'histoire de France pour les nuls, en réédition. Et plus récemment, 10 règles de français pour faire 99% de fautes en moins. C'est disponible en poche au seuil. Autour de la table, est-ce que vous supportez quand un animateur de radio commet des fautes de français, Daniel Lacote?
On en fait tous. On peut en faire tous, et même Muriel, je suis sûr qu'elle peut en faire.
Oui, oui, et bien entendu.
Voilà, brillante correctrice. C'est agaçant, de mon point de vue, c'est agaçant. C'est pas pareil pour un prof, mais pour moi c'est agaçant quand je reçois des courriels qui proviennent de gens qui seraient censés ne pas en faire. Et quand on reçoit un courriel, Jean-Joseph, ça nous arrive, d'un éditeur, hein, pour être un peu ludique comme ça, qui fait plein de fautes d'orthographe, qui a trois fautes en cinq lignes, ça m'agace prodigieusement. Et puis, comme tous les gens qui sont autour de cette table, quand je reçois un courriel, je saisis tout de suite, ça sera pareil pour vous dire, on voit tout de suite si la personne qui a écrit, je vais dire, maîtrise la langue, c'est pas seulement l'orthographe, c'est aussi la syntaxe, et puis je dirais l'aisance dans la façon de donner un message à l'autre, parce que c'est ça, hein, le fait d'écrire, et donc oui, ça m'agace quand même.
Jean-Joseph Julot, comment expliquer la tolérance zéro à l'encontre des fautes de grammaire, de vocabulaire, d'orthographe, ceux qui ne tolèrent aucun écart avec la règle, avec les tables de la loi du français?
Oui, là je pense que ce ne sont pas des intégristes de la langue, ce sont peut-être des gens qui se disent, il y va d'un enjeu majeur qui est celui de la communication. La communication doit être efficace. Et pour qu'elle soit efficace, il faut que l'orthographe soit précise, que les accords soient bien faits. On est, si vous voulez, sous la domination quasiment de l'exactitude. Regardez le langage informatique. Si vous oubliez une virgule, si vous oubliez un point, même une espace, puisqu'il s'agit du féminin ici, eh bien, vous n'aurez pas la communication que vous désirez avoir. Le langage mathématique, lui, il est immuable. On n'y touche pas. 2 et 2 font toujours 4. Alors, en français, si on veut que la communication soit efficace, il faut que l'orthographe soit précise. N'oublions pas que l'orthographe, la langue française, dans toute la nation, c'est une conquête de la révolution. C'est quand même précieux.
Et la langue est le ciment d'une nation. Et la langue est le ciment d'une nation.
Voilà. Muriel Gilbert.
Alors je voulais quand même tempérer la chose et dire que effectivement ce que commençait à dire Daniel Lacote tout à l'heure. On ne peut pas éviter de faire des fautes, et surtout à l'oral. Hein. Il faut pardonner quelques bévues, on en fait tous, et on est tous capables d'en faire, même nous, autour de cette table. Après, il y a des erreurs qui reviennent fréquemment, et vous vous dites, vous parliez des journalistes de radio, on se dit sur certaines choses quand même, ils pourraient regarder un peu leur dictionnaire. La liaison avec l'euro, s'il vous plaît.
Oui.
S'il vous plaît.
Très bien, très bien, très bien.
En lice et en liste. En
lice et en liste. Voilà. 100 euros, 200 euros.
Voilà, tout à fait. Voilà, ça c'est des choses qui reviennent sans cesse et que on espère les journalistes de radio peuvent apprendre.
Bien sûr, bien Muriel, sûr. Ce qui est vraiment, pardon Jean, ce qui est vraiment agaçant, c'est, alors là vraiment je suis désolé Ali, mais même dans les très bonnes radios comme France Inter ou le groupe Radio France, c'est en liste et en lice, vraiment arrêter, faire un truc quoi, les concurrents
prolixe
sont
prolifique.
Prolixe ouais. Et prolifique, le subjonctif après que, bon de grâce les enfants, de grâce, enfin, de grâce.
Tiens, Stéphanie Texier, notre réalisatrice, vous demande instamment la règle concernant les euros.
Alors, pour les euros, écoutez, c'est très simple. C'est comme les ans. Je dis, c'est vraiment le moyen le plus simple de s'en souvenir. Chaque petit gamin de maternelle sait qu'on dit « j'ai 2 ans ». Papy a 100 ans. Faites pareil avec les euros. Si ça se lit avec les ans, ça se lit avec les euros.
Très bonne règle.
Il faut connaître la règle. C'est-à-dire que 20 et 100 prennent un S s'ils sont multipliés et non suivis d'un autre nombre. Donc, 200... prend un S, et ça, il faut se le rappeler. 200 euros, mais 100 euros, 120 euros, parce qu'on n'a qu'une seule fois 20. Donc il faut, avant la liaison, il faut revoir la règle. Mais c'est très simple.
Et alors, maintenant, avec des traits d'union, Jean-Joseph, dans la nouvelle...
Les traits d'union, je vais vous dire, c'est au-dessous de 100. La règle est tellement simple. Au-dessous de 100, sauf 21, 31, 41. On fait ce qu'on veut, mais la règle est celle-là.
Alors, Roland Barthes, l'auteur des célèbres mythologies, rappelait dans Le Monde de l'éducation que le premier effet de l'orthographe était discriminatoire. Je le cite, « Dès lors que l'orthographe est uniformisée, légalisée, sanctionnée par voie d'État, dans sa complication et son irrationalité même, c'est la névrose obsessionnelle qui s'installe. La faute d'orthographe devient la faute avec un F majuscule. » Et toujours Roland Barthes, « Dès les premières études du jeune français, la faute d'orthographe est sanctionnée. Combien de vies ratées pour quelques fautes d'orthographe. Jean-Joseph Julot, vous qui avez été professeur.
Pourquoi les livres de Roland Barthes, s'ils professent cette tolérance, ne comportent-ils aucune faute d'orthographe, ni d'accord, ni de quoi que ce soit? Pourquoi sont-ils impeccablement écrits?
Parce qu'il les a fait relire par des correcteurs.
Mais bien sûr. Mais à ce moment-là, il aurait dû tolérer qu'il y ait 200, 500, 3000 fautes. Là, il aurait été crédible. Vous voyez, c'est toute l'ambiguïté de sa position et de sa posture.
Un texte avec des fautes d'orthographe, comme le disait Jean-Joseph, faut vraiment insister là-dessus. On sera d'accord tous les trois là-dessus. Enfin, on est d'accord sur tout. C'est que, c'est impossible à comprendre, au-delà de, je sais pas, 4-5 fautes dans un paragraphe, c'est impossible à comprendre.
Je vais donner une excuse pour ceux qui font des erreurs aujourd'hui dans un texte, surtout dans des courriels. Eh bien, ils font une grosse erreur, par exemple, ils mettent une, je sais pas, ils peuvent dire, eh bien, c'est ce correcteur automatique qui m'a encore joué un tour.
Ah oui.
Et même dans les SMS, on peut toujours trouver cette excuse. Voilà, c'était
car les correcteurs, les correcteurs informatiques, faut que les gens le sachent, hein, faut le dire aux auditeurs, les correcteurs informatiques font des fautes. Ils peuvent mettre un passé composé à la place d'un infinitif.
À la différence des correcteurs à deux pattes que
oui,
je représente.
Exactement.
C'est discriminatoire l'orthographe parfois, Muriel Gilbert.
Bien sûr que ça l'est parfois. Il faut savoir être malin, moi je dis, avec l'orthographe. C'est-à-dire moi j'excuse vraiment, mais c'est peut-être aussi mon métier, j'excuse les fautes commises en amateur. Les fautes, je voudrais pas que les gens s'interdisent de m'écrire, ce qui arrive, parce qu'ils ont peur de faire des fautes et que je les juge. Moi, je suis correctrice. Mon métier, c'est de corriger les fautes. S'il n'y en avait pas, je n'aurais pas de métier. Donc, les fautes, je les aime. Parfois, elles sont marrantes en plus. Voilà. En revanche, je dis toujours aux gens, quand vous envoyez un CV, quand vous envoyez quelque chose d'important pour vous, si vous êtes nul en orthographe, tant pis alors sur le moment. Mais envoyez votre message à votre copain, votre maman, etc., qui va vous relire. Soyez malin, sachez quand il faut faire un effort.
Et utilisez des dictionnaires.
Alors ça aussi.
Dans son livre consacré aux applications de rencontres, la sociologue Marie Bergström raconte que pour certains et certaines, les fautes de français sont rédhibitoires.
Ah, pour moi, ça l'aurait été. Ça, c'est clair. C'est vrai.
Pourquoi?
Mais en
pourquoi
même temps, ben, parce que pour moi, j'aurais l'impression de, je sais pas comment vous dire, autant je vais être gentille par rapport aux fautes que font les gens, je trouve ça marrant, etc. Mais en même temps, je me sentirais pas sur le même niveau que quelqu'un qui fait plein de fautes. Je me sentirais pas de la même famille, je sais pas comment vous dire. Voilà.
Thibaut Saint-Maurice, vous êtes sévère quand l'un de vos élèves de terminale vous remet une dissertation de philo impeccable dans le fond, mais truffée de fautes de français.
Alors, c'est rarement le cas, c'est-à-dire d'avoir le côté impeccable sur le fond et truffé de fautes de français, et l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'on peut avoir une copie qui avec une orthographe irréprochable, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle va être impeccable sur le fond. Moi, je me pose des questions dans une pratique de prof, surtout sur une discipline qu'il découvre en début d'année de terminale et qui va être examinée ensuite au bac. Parce que il y a un certain nombre d'inhibitions à l'égard déjà de la pratique philosophique et de la réflexion, qui est une discipline dans laquelle on leur demande vraiment de penser et de faire un effort d'argumentation, d'écriture. Et si la première barrière, c'est la maîtrise absolue de la langue et l'application, comme vous le disiez, de l'exactitude des règles, eh bien en fait, c'est contre-productif. Et en réalité, il ne s'agit pas d'être dans une forme de laxisme, il s'agit de rendre possible en fait une expression à partir de la situation des élèves. Parce que malgré tout, hein, c'est discriminatoire. Tiens, l'application des règles d'orthographe et ce souci même de l'exactitude des règles d'orthographe, elle est située socialement, moralement et politiquement. Donc ces règles, elles sont arbitraires. Elles sont le résultat d'une évolution historique. Elles n'ont aucun fondement naturaliste ou essentialiste ou quoi. Ce n'est qu'une construction arbitraire. Donc, en fait, il faut, je crois, être malin. Donc moi, les élèves, je signale les fautes, mais je ne confonds pas l'exercice qui consiste à dire il faut essayer de faire de la philosophie et de penser et non pas d'écrire correctement langage sans U alors que tous les élèves écrivent langage avec un U en reprenant le lycée.
Jean-Joseph Julot, ancien prof.
Oui, moi je pense que ce que vous dites est tout à fait exact, mais ce qu'il est important d'avoir et ce dont il faut faire preuve, c'est de bonne volonté par rapport à la langue. Vous savez, j'ai des expériences concrètes très récentes. Je donne des dictées, ce qu'on appelle la dictée pour les nuls, partout. J'en donne une à Fontvieille, dans les Bouches-du-Rhône, samedi à 9h. Ceux qui sont là, venez à cette dictée. C'est dans la maison d'Alphonse Daudet, dans le moulin d'Alphonse Daudet. Donc, et j'en ai donné une au Claude Vougeot le week-end dernier. Eh bien, nous avions des étudiants de la Sorbonne. Nous avions des gens qui ont fait 500 kilomètres pour venir, et même davantage, qui venaient de Suisse, qui venaient de Belgique. Il y en a qui ont fait 30-40 fautes. Mais ils étaient ravis de participer à cet exercice, parce qu'ils ont acquis une règle qu'ils avaient oubliée, parce qu'ils se sont mesurés à eux-mêmes. Et c'est ce que j'appelle la bonne volonté. Et dans cette mesure-là, on peut s'améliorer. Je ne pense pas qu'il faille être... Personne ne fait zéro faute. De toute façon, nous, dans mes études, personne quasiment ne fait zéro faute.
Daniel Lacourte. Oui.
Moi, comme tu le sais, je fais des dictées, mais aussi surtout des quiz langue française autour de l'orthographe, etc. Et je dirais la même chose. Les gens qui sont là, ils sont vraiment ravis de participer. Ils participent de façon ludique. Alors évidemment, quand vous êtes dans un lycée, il y a aussi la contrainte du lycée. Il y a aussi les examens qui vont arriver, voire les concours, etc. Donc ce que vous faites, je suis absolument d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous pouvez pas à la fois le corriger le fond. Mais il faudrait que derrière, enfin je sais qu'ils le font, mais les profs de français... peut-être viennent compléter tout ça et fassent de l'orthographe de façon un petit peu plus ludique, si vous voulez.
Lurette Gilbert.
Je voulais dire que moi aussi j'organise des dictées de temps en temps. Et
très bien.
La différence, c'est que d'abord, au début de chaque dictée, je dis aux gens, si jamais une personne dans cette salle ne fait aucune faute, sachez que je serai fort déçue. Oui. Parce qu'une dictée, c'est fait pour faire des fautes. Et donc, ça met les gens tout de suite à l'aise aussi.
Allez, racontez-nous si les fautes de français vous ont déjà joué des tours dans votre vie. Toutes vos questions sur les fautes de français au 01 45 24 7000. Les enfants et les ados peuvent évidemment appeler en ce mercredi. Claire Destacan, Clara Marliot et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Stéphanie Texier et je vous propose d'écouter une chanson de 1979, un phare de la pensée naissait, Thibaut de Saint-Maurice. Et dans un autre genre, disparaissait l'acteur John Wayne. Bonne journée à l'écoute de France Inter. The Buggles sur France Inter.
Je vais m'occuper de ton cas, mon petit.
Grand bien vous fasse.
Je sais que ce charabia, molasse.
Bah, tous les jeunes écrivent comme ça. C'est pour gagner du temps quand on envoie des textos.
Ah bon? Bah, je vais gagner du temps, moi aussi. Je vais vous coller un zéro tout de suite.
Sur France Inter.
10h23 et nous vous délivrons ce matin quelques règles pour faire moins de fautes de français. Toutes vos questions au 01 45 24 7000.
Moi, si j'ai bien une qualité, c'est que je fais jamais de fautes d'orthographe.
Faux!
Professeur, ça s'écrit comment?
Préserver les gypaètes barbus.
Monsieur, monsieur, il y a deux P à l'appel.
Il y a deux P à t'appel? J'avais fait exprès une faute d'orthographe pour voir si vous allez le voir.
Comment tu sais pas écrire, mec?
Protéger les écureuils acajou et les mouflons aux cornes hélicoïdales.
Voyons, mon enfant, faites un effort.
Oula, mais il y a que des fautes.
Moi, quand j'écris une lettre, j'essaie de ne pas faire de faute d'orthographe.
Mais t'as écrit souvent avec 5 P.
C'est la laisser encore une fois.
Que les gentianes bleues violacées et les edelweiss argent
étaient...
Bienvenue, ça prend un E? Je crois que monsieur est un littéraire. Ah non, pas du tout, non, c'est parce que chez moi j'ai un paillasson bienvenu.
Mixage signé Stéphanie Texier. Un courriel. Que devient le don? Je n'arrête pas d'entendre les affaires que j'ai besoin et les histoires que je t'ai parlé. Au secours, Jean-Joseph Julot.
Oui,
sur le don.
Eh bien, je vais vous dire quoi, la règle. C'est de cette affaire que nous parlons. Et c'est cette affaire dont nous parlons.
C'est quoi la règle?
Le de, eh bien, le de, le don reprend, c'est un pronom relatif qui reprend son antécédent. Et puis, vous avez le de qui est inclus dans ce don. Et puis, il faut de sorte, il faut l'adapter à la phrase dans laquelle il est.
On peut dire les affaires
dont j'ai parlé.
Oui, dont j'ai parlé, mais
j'ai parlé de.
Que voilà. Je te parle de.
Voilà, hein, voilà. Lorsque le verbe est un complément d'objet indirect, eh bien, parler de quelque chose, on aura comme complément d'objet indirect le don, où on retrouve la préposition de. Mais si le complément est direct, c'est de cette affaire que nous parlons, eh bien, on emploie le que.
Pas deux fois de dans la phrase.
Pas deux fois de.
Pas voilà, deux fois ça. De. Voilà.
C'est-à-dire
pas de.
De cette affaire
c'est
dont.
C'est de cette affaire dont je parle. Non. C'est de cette affaire que je parle. Pas voilà. Deux fois deux. Voilà.
Anne nous dit, vive les fautes d'orthographe. Comment reconnaître sinon les faux courriels et les arnaques sur Internet?
Oui, c'est vrai.
C'est
vrai.
Pas faux.
Et ils progressent. Hein.
Ouais. Bonjour Margarita, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Alors, vous, pendant longtemps, vous avez eu du mal à conjuguer l'impératif, c'est ça?
Margarita, moi j'ai eu des fautes de tout. J'ai fait toute ma scolarité en France jusqu'en cinquième. En cinquième, je me rappelle d'une dictée où la prof de français m'avait mis 0 entre parenthèses moins 20. Je suis partie 4 ans à l'Uruguay. Là-bas, je n'avais que 2 heures de français à l'Alliance française. Et en fait, j'ai tout appris là, au niveau de l'orthographe, au niveau des règles. Et maintenant, quand je vois des fautes, ça me pique aux yeux.
Mais pendant longtemps, vous nous avez dit hors antenne que vous aviez du mal à conjuguer l'impératif, hein, c'est ça?
Mais je comprenais pas pourquoi en CM2, on m'avait mis faux quand j'avais marqué « va chercher le pain » avec un « F ». Et ce n'est que là-bas, en Uruguay, on m'a dit « mais c'est les verbes au premier, les premiers groupes, des « va », des « va ». Alors que « vas-y », il y a bien un « F ». C'est réception de réception.
D'accord. C'est ce phonique. Le verbe « aller », de toute façon, il est du troisième groupe.
Oui.
Et puis, les verbes du premier groupe, effectivement, il y a un petit truc tout simple. Quand je dis « mange ceci », eh bien, on met mentalement le « je » devant. « Je mange ». Pour les verbes du premier groupe, et puis les autres, il n'y a pas de problème, parce que le deuxième et troisième,
c'est... Mais à la deuxième personne, mange.
Alors, mangeusant, il y aura un « s » parce que ce « s » évite l'hiatus. C'est un « s » euphonique, ça n'est pas un « s » grammatical.
Merci beaucoup, Margarita, de nous avoir appelé. Daniel Lacote, j'aimerais qu'on commence avec quelques fautes de prononciation qui ont le don de vous agacer. Je pense par exemple à gageure.
Gageur,
oui, on ne sait jamais. C'est... Non mais attendez, mais justement, pardon, vous allez nous dire quelle est la bonne prononciation.
gageur. C'est gageur, la bonne prononciation.
Gageur qui veut dire défi à relever.
Qui veut dire un défi à relever, ouais.
Alors qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez gageur?
Bah oui, ça m'agace encore une fois. Bon, mais il y en a d'autres. Vous savez, Bruxelles. Bon, non, c'est Bruxelles. Hein, c'est deux S. Hein. Chamonix. C'est pas Chamonix, c'est Chamonix.
Avoria,
mais voilà. Pugnace, on prononce bien le G. Suggérer et pas suggérer, comme dit Didier Deschamps.
Cognitif.
Cognitif, là aussi, avec un... C'est relativement simple, la prononciation, et puis ça peut être marrant aussi, mais quand on dit, alors je sais, Ali, ça vous agace vous-même, quand vous faites des fautes de ce genre, des liaisons mal à propos.
Liaisons dangereuses.
Il va au cinéma, par exemple.
Ça, c'est un cuir.
Voilà, ça, c'est un cuir, et puis...
Rappelez ce qu'est un cuir, Muriel Gilbert.
Ben, c'est ça.
C'est une liaison avec un T mal à propos. Donc, voilà. Il va au cinéma, alors qu'un velours, ça glisse, il va au cinéma. Là, c'est un velours.
Et c'est, on dit
troisième
aussi,
élément.
Regrouper le tout, c'est donner un soufflet à Ronsard. c'est ça, la vérité.
Et troisième élément, c'est la psilose.
C'est quoi?
Ah. Eh bien, c'est tout simplement quand vous dites les handicapés.
Ah oui.
Oui.
Donc vous omettez de respecter le H aspiré.
Mais tiens, justement, Muriel Gilbert, dans votre livre, vous consacrez un chapitre à cette lettre qui pose souvent problème. C'est le H, très complexe à manipuler. Dans la plupart des mots, le H ne s'entend pas. Et pourtant, il existe un H muet, un H aspiré. Et là, c'est un peu...
Il existe aussi un H qu'on entend quand il est lié avec une autre lettre, dans Christophe, par exemple. Ça,
c'est autre chose, mais sur le H muet et le H aspiré.
Les H, oui. les H aspirés sont souvent des H qui commencent des mots d'origine germanique. Et puis les autres, eh bien, d'origine latine, voilà.
Qu'est-ce que vous recommandez en cas d'hésitation?
En cas d'hésitation, vous ouvrez votre dictionnaire. C'est vraiment sur certains mots. Alors, on le sait que les handicapés, le handicap, c'est un H aspiré. Le haricot, s'il vous plaît, c'est toujours un H aspiré, contrairement à ce que disent certains. Voilà. Mais pour d'autres mots, c'est très difficile de le savoir. On ne connaît pas tous par cœur. Et moi, j'ouvre mon dictionnaire. Un correcteur ouvre son dictionnaire 50 fois par jour. Dans le Larousse, les mots qui commencent par un H aspiré sont précédés d'une petite étoile. Dans le Robert, d'une petite apostrophe. C'est fort commode.
Alors, Muriel Gilbert, il y a une faute qui vous agace vraiment, ce sont les fautes que nous faisons avec le chiffre 1.
Avec le chiffre 1, ah bah oui. Alors c'est la ligne, j'entends ça dans le métro, la ligne 1 du métro. Non, madame RATP, la ligne 1 du métro, parce que c'est la ligne numéro 1.
Voilà. Hein,
voilà, c'est un numéro dans ce cas, et donc on n'accorde pas au féminin. D'ailleurs, ça ne viendrait pas l'idée de le faire dans une autre langue qu'en français. Mais en français, on a cette...
Mais on dit la une d'un journal, c'est ça.
Voilà, alors ça,
c'est un glissement.
Et c'est la page 1, c'est la page 1, mais c'est la une, c'est vrai, c'est l'usage.
Et pourtant, si on entendait dans le métro la ligne 1 du métro, beaucoup de voyageurs se diraient, mais c'est une faute de français.
Hein, ça veut dire qu'ils n'ont pas lu mon livre. Parce que, en tout cas, tous ceux qui ont lu mon livre savent.
C'est vrai que quelquefois, quand on pratique une certaine correction de la langue, eh bien, on nous dit mais là, tu fais une faute alors qu'on n'en fait pas.
Oui. Par exemple,
avant que et après que. Après qu'il est parti, je me suis diverti. Mais tu devrais dire après qu'il soit. Eh bien, non, parce que après que, on emploie l'indicatif avant que, le subjonctif. Pourquoi? Parce que avant que, eh bien, on va employer le mode du doute, le mode du non réalisé. C'est le subjonctif. Et après que, l'événement s'est réalisé, le mode du réel, l'indicatif, c'est tout simple.
Autant pour moi.
Autant pour moi.
Je ne l'écris plus, parce que...
Mais si.
Oui, autant pour moi.
Alors ça s'écrit comment tous les
trois. A-U, plus loin, T-E-N-P-S, voilà,
etc.
Bon. Il suffit d'aller dans une caserne, vous demandez aux militaires comment vous écrivez autant pour moi, ils le savent.
Ça vient des militaires qui marchaient au pas, et puis quand il y en avait un qui marchait de travers, etc. Bon, et celui qui... Hop, c'est le mouvement, et celui qui dirige la troupe, là, il disait... Ah, il l'arrêtait et il disait autant pour moi et on repartait.
Retourne au temps.
Retourne au premier temps.
Voilà. Alors le type disait oui, autant pour moi, je retourne au temps.
Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut pas se dire que autant pour moi, autant écrit A-U-T-A-N-T, c'est rentré dans l'usage?
Si, c'est dans les dictionnaires.
C'est dans les dictionnaires aussi.
Mais c'est illogique parce que autant établit une équivalence. Une équivalence, vous êtes en train d'acheter 3 places de théâtre, vous arrivez derrière, quelqu'un dit autant pour moi, autant de places de théâtre. Dans autant pour moi, A-U-T-A-N-T, pour dire qu'on s'est trompé, vous n'avez aucune équivalence. Non. Il y a donc une incorrection manifeste là. Autant AU, plus loin TEMPS pour moi, mais on fait ce qu'on veut, on n'est pas dans une dictature.
Thibaut de Saint-Maurice.
Le mieux c'est de ne plus l'écrire.
Oui, petite question, à partir de quel moment est-ce que l'usage est légitime dans le fait de faire évoluer une règle?
Quand ça rentre dans le dictionnaire de l'Académie française.
Oui, mais ça c'est une réponse
bien avant le dictionnaire de l'Académie française est trop lent.
Il se trouve que la langue française est quand même extrêmement stable depuis un ou deux siècles.
Est-ce que c'est une bonne chose?
Et, on revient toujours au même problème. Est-ce que c'est une bonne chose? Ben, je réponds oui, parce que la communication aujourd'hui étant un élément fondamental de nos civilisations et de nos sociétés, il faut que cette stabilité est productive, est nécessaire, est indispensable. indispensable. Vous savez que il a été calculé que dans les sociétés, dans les entreprises, on perd des milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions d'euros à cause justement du manque de maîtrise de la langue. Vous commandez quelque chose, eh bien, vous commandez quelque chose, si vous faites une erreur, on va avoir un échange de messages pour préciser les choses. Et surtout, lorsque vous faites un site internet, si vous avez 4 fautes dans la première page, eh bien, évidemment, vous vous dites, si ces gens-là ne sont pas capables de respecter l'orthographe, ils ne vont pas respecter ce qu'ils se proposent de m'envoyer ou de me vendre.
Bonjour Axel, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, alors vous êtes doctorant en neurosciences.
Exactement.
Alors, quelle est votre réflexion sur notre sujet du jour, votre question ?
Eh bien, moi justement, je voulais intervenir sur le fait que donc je suis doctorant en neurosciences, justement en co-accréditation entre Normale Sup et la Sorbonne. Mm-hmm. Et c'est vrai que je fais énormément de fautes d'orthographe. J'en ai toujours fait depuis le primaire, justement, quand on a appris justement à écrire. Ça a toujours été très problématique, j'ai toujours été stigmatisé, que ce soit au primaire, au collège ou au lycée. Je pensais d'ailleurs ne pas pouvoir faire d'études supérieures. D'ailleurs, je m'étais inscrit justement dans une voie qui me permettait d'aller finir en tailleur de pierre, ce que j'aurais adoré. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance derrière de passer par des concours de médecine, puis derrière passer en psychologie parce que la médecine ne m'intéressait plus. Et au fur et à mesure, justement, le fond a pris un petit peu plus que la forme et je suis tombé sur des professeurs qui accepter, on va dire, la notion de faute d'orthographe, ce qui m'a permis à terme de gravir les échelons et d'arriver en doctorat à 31 ans, avec un petit peu de retard certes, mais j'y suis arrivé quand même. Et même maintenant, quand je dois envoyer un article ou éventuellement justement ma thèse, elle est bourrée de fautes d'orthographe. Bien évidemment, ce que vous disiez tout à l'heure, excusez-moi des fautes justement pour le coup, la notion de relecture, de faire relire un petit peu ses travaux, ben j'en suis là, bien évidemment, sauf que faire lire une thèse de 200 à 300 pages qui comporte un vocabulaire extrêmement précis, c'est pas donné à tout le monde, c'est assez difficile, c'est extrêmement fastidieux, et c'est vrai que au bout d'un moment, ben l'entourage en a une petite marre, je vous avoue. Donc comment faire dans ces cas-là?
Jean-Daniel Lacote.
Oui, ben c'est bien, tout ce que vous dites c'est bien, et puis on sent, même si vous faites des fautes, que vous êtes concerné par la chose, et ça c'est formidable. Donc on va redire, allez dans les dictionnaires, éventuellement vous pouvez participer à des sessions de formation sur la chose, j'en ai donné au centre de formation des journalistes, pour ne pas citer, où je faisais des cours, parce que c'était vraiment des cours, mais très ludiques, très marrants, à des cadres et cadres supérieurs d'entreprises. Et je peux vous assurer qu'ils avaient fait des grosses études et ils étaient ravis d'être là, ils étaient très demandeurs, ils étaient très très sympathiques, et ils apprenaient vraiment des choses. Donc il faut pas avoir peur, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Ali, au début, là, sur la discrimination. Il faut pas non plus, à partir d'un certain moment, avoir notre auditeur par exemple, il faut plus avoir peur de faire des fautes, et vous êtes capable d'apprendre l'orthographe compte tenu de tout ce que vous avez fait.
Jean-Joseph Julot.
Capable comment? Moi je dis que, enfin, je pense que il faudrait une hyper-rationalisation de l'effort. Parce que c'est vrai qu'on se lamente quand on fait des fautes. Mais si, chaque jour, on consacre 10 minutes à l'orthographe, à la grammaire, mais chaque jour de 8h à 8h10 par exemple, chaque jour, et qu'on met sur un petit sur un fichier les éléments qu'on a revus, et que on consacre 3 semaines à faire cet effort, et la 4e semaine on tire au sort l'un des éléments qu'on a revu, qu'on a réappris, et il faut le revoir, parce que la mémoire est faillible. Répétez toujours. Et vous ferez des progrès, c'est évident.
Émeric Gilbert.
Et pour la thèse tout de suite, là, le besoin immédiat qui est d'aider à corriger cette thèse, eh bien quand même, on a dit que les correcteurs d'orthographe automatiques laissaient pas mal de fautes. C'est vrai, mais enfin, ils peuvent vous rendre de grands services. Donc franchement, ils vont vous enlever 80% de vos erreurs. Profitez-en.
Merci beaucoup, Axel, de nous avoir appelé ce matin. Quelle est votre ordonnance philosophique, mon cher Thibaut de Saint-Maurice, pour faire moins de fautes?
Eh bien, il y a un traitement pour essayer d'aider tous ceux qui sont fâchés avec l'orthographe, mais à partir d'un diagnostic un peu spécial. Alors, on en a un petit peu parlé, je sais pas pour vous, Ali, mais moi, j'ai toujours été très surpris par cette expression de faute d'orthographe. On dit faute alors que le plus souvent, c'est des simples erreurs. Et la différence entre la faute et l'erreur, c'est que la faute, elle est intentionnelle et elle suscite une réprobation morale et parfois même une condamnation juridique, tandis que l'erreur, elle est involontaire et elle repose plutôt sur de l'ignorance ou un manque d'attention. Alors en fait, en parlant de faute d'orthographe, et on le fait malgré nous depuis le début de l'émission, implicitement, on fait peser tout le poids d'un jugement moral sur la plus ou moins bonne maîtrise de règles de grammaire et d'orthographe, qui sont pourtant purement arbitraires. Et mon diagnostic, c'est que si les gens sont fâchés avec l'orthographe, d'une part, et que si d'autres gens sont aussi accrochés aux règles d'orthographe, d'autre part, c'est justement parce qu'en fait, on en fait une question de morale.
Alors comment soigner cette dégénérescence morale de l'orthographe ?
Eh bien avec une petite perfusion de philosophie, celle de Michel Foucault en l'occurrence, et notamment de son concept d'assujettissement. Foucault fabrique ce concept d'assujettissement pour expliquer comment est-ce que les règles que nous essayons de suivre, à la fois elles nous soumettent, elles nous assujettissent, et à la fois elles nous transforment en sujet. Suivre une règle, bien sûr, c'est d'abord s'y soumettre et s'y conformer, mais en s'y conformant, on découvre que l'on a du pouvoir sur soi et que donc on peut devenir le sujet de son action et de ses pensées. Dans le cas des règles de l'orthographe, le problème, c'est pas donc tant de s'y soumettre, on en a bien besoin, c'est vrai, pour fixer une écriture commune qui puisse nous permettre d'échanger. Mais on ne doit pas se satisfaire de cette soumission. Hein, parce que suivre les règles, c'est surtout découvrir que ce ne sont que des règles construites, conventionnelles, résultat donc d'un long processus de décisions historiques, mais qui n'ont aucune portée morale. Quand je fais des fautes d'orthographe, je ne suis pas une mauvaise personne. Juste, je ne sais pas. Je commets une erreur d'application, comme quand je me trompe dans la recette du gâteau au chocolat. Le bénéfice de ce traitement, donc, c'est de nous faire comprendre que les règles d'orthographe, comme bien d'autres règles sociales et culturelles, ne sont que des constructions arbitraires qui tentent de se justifier en se donnant, vous savez, une sorte de moral washing, hein, une portée morale ou même parfois politique. Et l'autre bénéfice de ce traitement, je crois, c'est qu'il renforce nos défenses immunitaires contre le virus de la soumission aveugle à des règles. Une fois qu'on a compris comment elles fonctionnent, eh bien on ne les subit plus. Et on peut même en devenir les sujets actifs et résistants, en les détournant, comme certains poètes, hein, la fameuse licence poétique, ou bien même en inventant de nouvelles, comme par exemple cette règle de proximité, qui se propose d'accorder l'adjectif ou le participe passé avec le genre du nom le plus proche et non pas systématiquement avec le masculin, parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi est-ce que le masculin l'emporterait toujours. Voilà, l'orthographe est un jeu qu'il faut apprendre à jouer, non pas pour devenir de bonnes personnes qui ne font aucune faute, mais au contraire pour se libérer de la pression malsaine que ces règles exercent trop souvent.
L'ordonnance, ça veut réagir dans le studio. Si, Daniel si. Lacote.
Comme par exemple, c'est, cher ami, c'est un pléonasme. Hein, comme si. Par exemple. Bon, on voilà.
Et alors
non, mais il n'y a aucun problème.
Pléonasme n'est pas forcément mauvais.
C'est pas un pléonasme. Non. Il y a une différence entre les deux. Si. Donc je défends.
Quant au masculin féminin, c'est la pure, c'est aléatoire. Pour la même chose, un tabouret, une chaise. Hein, donc,
pas si aléatoire que ça. C'est que lorsque le latin est devenu le latin vulgaire et que ça a basculé dans le roman, eh bien tous les mots du neutre sont allés vers le masculin parce que c'était plus facile. Les déclinaisons étaient plus faciles. Voilà la véritable raison. Ça n'a rien à voir avec le masculin féminin, homme-femme. Hein. C'est tout simplement ça.
Muriel Gilbert.
Je voulais reprendre sur la conclusion de notre philosophe. Qui termine par l'orthographe est un jeu. Je suis bien d'accord avec
vrai,
ça. Et un jeu, ça n'est pas intéressant si c'est facile, si on gagne à tous les coups. En fait, l'idée, mais c'est ça, des mots croisés, si vous avez la réponse à tous les mots. Donc, l'orthographe, c'est un jeu. Vous faites des fautes, c'est normal.
Alors, venez vous amuser à faire nos dictées.
Voilà. L'ordonnance philosophique de Thibaut de Saint-Maurice, à voir en vidéo sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Dans quelques instants, un gros morceau, l'accord du participe passé.
C'est bien ça.
Voilà, on va s'amuser. Dites-nous quelles sont les fautes de français que vous commettez le plus souvent et celles qui vous agacent au 01 45 24 7000.
Quitter la fête avant la fin. claquer la porte avec fracas. On ne s'inquiètera pas pour toi. Tu fais ça deux fois sur trois. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments passés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Qui monte trop vite, les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments passés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Sans blague, sans blague, sans blague, sans blague. Dis à quoi tu joues, où tu vas abîmer ton cœur. À trop vivre plus fort que tout. Hypersensible et sauvage, dans ta tête comme dans une cage. T'as tellement besoin qu'on t'aime, que t'oublies de t'aimer toi-même. T'aimer toi-même. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments glacés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Les sentiments passés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite.
Qu'est-ce que c'est bon, Isia interprété trop vite.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h45 et nous vous délivrons ce matin quelques règles pour faire moins de fautes de français. Hugo nous demande, doit-on prononcer les deux O du mot zoo? Daniel Lacote.
Oui, absolument, zoo.
Amélie nous demande, ce qui m'exaspère le plus, c'est un espèce de, un sorte de, entendu même chez les journalistes.
Une espèce de. Les gens croient qu'il faut accorder espèce avec le mot qui suit, alors que espèce est un substantif, on dit une espèce. Alors, une espèce de camion, une espèce de voiture, une espèce et pas un espèce.
Jean-Joseph Julot.
Quoique Diderot a écrit un espèce de, quoique Marcel Pagnol a écrit un espèce de, parce qu'il considérait que un et espèce était une. Bon, alors.
Et puis le genre des mots a évolué dans le temps. C'est une erreur. Le genre des mots change parfois.
Daniel, vous avez dit, les gens croient et non pas croivent. Je vous en suis reconnaissant.
D'ailleurs, Hélène nous demande, nos élèves utilisent fréquemment, ils croivent, d'où vient cette erreur, Jean-Joseph Julot?
C'est l'aglissement de, ils boivent, ils savent. Le verbe croire, c'est toujours ils croient, c'est R-O-I-N-T.
Oui, oui.
Le Régilbert, vous disiez?
Je ne sais plus.
Non, à propos du genre.
À propos du genre, oui. Le genre des mots évolue dans le temps. C'est-à-dire, on disait un horloge à une époque. Hein, oui. On disait. Voilà. Donc, certains genres peuvent évoluer. Les genres ne sont pas si fixes que ça qu'on ne le croit. On disait un automobile. Pourquoi? Parce qu'au moment, par exemple, pour automobile, je connais l'histoire, c'est pas ce qui est pas toujours le cas. Automobile, c'est arrivé dans le vocabulaire comme véhicule automobile. Donc, c'était un adjectif. Puis, c'est passé à un automobile. Et puis, comme ça finissait par un E-muet, les Français se sont dit, tiens, ça serait plus une automobile. Et c'est comme ça que l'usage change et que les dictionnaires changent.
Laurence Muriel, il faut ajouter que le genre marqué, enfin, nous savons tout ça, le genre marqué est le genre féminin, c'est pas le genre masculin.
Ouais. Ça veut dire quoi, le genre marqué?
C'est celui qui marque l'accord, on va le dire comme ça.
Une erreur souvent commise, nous dit Laurence, à l'écrit et à l'oral, n'est-ce pas Ali, consiste à interroger en utilisant l'expression « c'est quoi » au lieu de « qu'est-ce que c'est ». Qu'en pensez-vous, tiens, Jean-Joseph Julot?
Eh bien, oui, c'est quoi, oui, alors c'est quoi, c'est un peu familier, c'est vrai, c'est du langage oral, on ne va pas le mettre à l'écrit, mais moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est que dans les interviews, on va se demander « qu'est-ce que c'est que ceci ?» On va se demander demander qu'est-ce que c'est que cela. Enfin, il y a quand même un mélange entre l'interrogation directe, qu'est-ce que c'est que ceci, et on va se demander ce que c'est que ceci. Vous voyez, l'interrogation directe a quelque chose de net, de propre, tandis qu'on va se demander qu'est-ce que c'est toujours, ça heurte toujours.
Mais comme le disait Jean-Joseph, c'est quoi n'est pas interdit. C'est une question de niveau de langue. Hein. Oui, on a le droit de dire c'est quoi dans la cour de l'école, on a le droit de le dire quand on parle entre nous, pas quand on écrit une disserte de philo peut-être, et encore.
Alors rappelez-nous les grandes lignes de l'accord du participe passé avec les auxiliaires être et avoir. C'est un gros morceau. Ça tombe sur vous, Jean-Joseph Julot. Rappelez-nous la grande règle de l'accord du participe passé.
Clément Marot, au XVIe siècle, qui adorait l'Italie, est revenu avec la règle de l'accord du participe passé. Et il est revenu donc avec ce qui allait donner les plus grands cauchemars à ceux qui se disent « Mais comment se fait-il que on doive accorder le participe passé avec le complément d'objet direct s'il est placé avant ?» Alors il y a là deux difficultés. Qu'est-ce que c'est qu'un participe passé? Qu'est-ce que c'est qu'un complément d'objet direct? Et voilà les deux obstacles au bon accord. Le participe passé, c'est lorsque on conjugue le verbe, eh bien, le passé composé, j'ai regardé, regarder est un participe passé. Avoir regardé, c'est un infinitif passé, mais on trouve le participe passé, regarder. Donc, quand on sait ce que c'est qu'un participe passé, on va essayer de l'accorder si toutefois il doit l'être. Et qu'est-ce que c'est qu'un complément d'objet direct? J'ai regardé la télévision. J'ai regardé quoi ? J'ai regardé la télévision. C'est un complément d'objet direct. J'ai pensé à faire ma déclaration de revenus. J'ai pensé à quoi ? À est une préposition. Ce n'est plus un complément d'objet direct, c'est un complément d'objet indirect. Donc il faut faire la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Ça a des conséquences, parce que lorsque je dis les fêtes se sont succédées toute la semaine, les fêtes ont succédé, posez la question, les fêtes ont succédé, parce que lorsque c'est un verbe pronominal, ce sont va être remplacé par l'auxiliaire avoir. Les fêtes ont succédé, posez la question, ont succédé à quoi ? Vous avez une préposition à. Comme vous avez la préposition à, c'est un complément d'objet indirect, on n'accordera pas. Si je dis, en revanche, ils se sont rencontrés. Ils ont rencontré qui ? Il n'y a pas de préposition. Donc ils ont rencontré ES, succédé jamais de S, jamais d'accord. Succédé est invariable. Ils se sont nuis. Je vais poser au professeur de philosophie. Ils ont nuis, posez la question. Ils ont nuis à qui ? Est-ce que j'accorde?
Non.
Non, puisque c'est un complément d'objet indirect.
Merci, Muriel.
Ils se sont réconciliés. Daniel.
La côte.
Je ne suis pas, voilà. Il y a l'élève qui ne suit pas, il est en train de lire.
J'écoute, Jean-Joseph.
Il est en train de lire son livre.
Ils se sont réconciliés.
Non, parce que je cherchais les verbes essentiellement pronominaux.
Ils ont réconcilié qui ? Ils ont réconcilié eux-mêmes. Donc, ES. Lorsqu'il y a le complément d'objet direct, j'accorde. Lorsqu'il y a un complément d'objet indirect, je n'accorde pas.
Muriel Gilbert.
Alors, à la décharge de tous les gens qui s'arrachent les cheveux avec le participe passé, je voulais juste signaler que Voltaire a dit de Clément Marot, dont on a dit là tout à l'heure que c'était lui qui avait, que ce poète officiel de François Ier, hein, qui nous a rapporté cette règle dans ses valises d'Italie. Voltaire a dit, Clément Marot a ramené deux choses, il disait ramener à l'époque, a ramené deux choses d'Italie, la vérole et l'accord du participe passé.
Ouais, Voltaire,
et je pense que c'est le deuxième qui a fait le plus de ravages.
C'est ça, mais c'est toujours le mot pour...
Becherel, qui n'est pas un grand révolutionnaire, dit quand même aussi que c'est la règle la plus abracadabrante de la langue française.
Alors, non, parce que je vais vous dire, moi, j'ai acheté l'appartement de ma voisine que j'ai convoité depuis 10 ans. Oui, alors est-ce qu'on accorde convoité ou pas ? Si j'accorde convoité et eux, c'est ma voisine que j'ai convoité. Mmh, ouais. Si je ne mets pas l'accord et, eh bien, c'est l'appartement.
Oui, ça,
c'est pour ceux qui voulaient supprimer les participes passés.
Voilà, Muriel Gilbert, les choses se compliquent avec les verbes pronominaux. Doit-on dire, par exemple, Claire s'est permise d'entrer dans le studio ou Claire s'est permis d'entrer dans le studio ?
Alors, c'est permis d'entrer.
Hein, pourquoi ? Expliquez-nous.
Parce qu'elle est suivie par un infinitif, tout simplement. Elle s'est fait couper les cheveux, elle ne s'est pas faite couper les cheveux. C'est aussi une chose qu'on entend très souvent. C'est suivi d'un infinitif.
Devant l'infinitif, le participe passé reste toujours invariable.
Voilà, tout à fait.
Et quand c'est pas un infinitif ?
Alors, quand c'est pas un infinitif, eh ben, c'est variable parfois.
On revient à ce que disait Jean-Joseph Julot. Si c'est pas un complément d'objet indirect, le verbe permettre, c'est permettre à quelqu'un. On a la préposition.
Les yeux dans les yeux, Jean-Joseph Julot, cette règle de l'accord du participe passé, elle n'a rien de logique.
Eh bien, si quand même.
Si quand même.
Si, parce qu'elle précise.
Elle a vous savez,
quand vous faites, admettons que quelqu'un fasse une commande sur Internet et l'accord du participe passé va être très précieux parce que si vous avez un nom plus un complément du nom et l'accord du participe passé va préciser si l'objet que vous commandez est en rapport avec le complément du nom ou le nom. Et ça, c'est des sources de catastrophes quelquefois. Il y a des exemples, je n'en ai pas à l'esprit, mais il y a des exemples où un accord du participe passé a fait livrer des choses un petit peu incongrues dont le nombre était un peu bizarre.
Alors pendant un temps, les autorités de la Belgique francophone avaient un temps envisagé d'éliminer cette règle de l'accord du participe passé.
C'est une stupidité totale. Non,
pourquoi c'est une stupidité?
Bah, c'est l'exemple que vient de donner Jean-Joseph avec sa voisine.
Sa voisine que j'ai convoité depuis 10 ans.
Que j'ai convoité depuis 10 ans, non. Oui.
Mais non, en passant. Muriel Gilbert.
C'est la mort de cet homme que j'ai tant désiré. Oui. J'ai désiré quoi? L'homme ou sa mort. Voilà. Donc en fonction de la façon dont on accorde, bien sûr, mais ça c'est des petits jeux.
Alors j'aimerais qu'on s'arrête...
Mais ça peut être très grave.
J'aimerais qu'on s'arrête sur certains pluriels, des noms communs et des noms propres. Petite révision, qui se lance? Muriel Gilbert ou Daniel Lacote?
Je veux bien sur les couleurs, parce que l'erreur est souvent faite. Des yeux bleu-vert, on met un trait d'union... Parce que bleu-vert constitue une unité sémantique, hein, comme on dit.
Et on ne met pas des à bleu ni à vert.
Et on ne met pas des. En revanche, si vous dites des yeux bleu clair, il n'y a pas de trait d'union parce que clair n'est pas un adjectif de couleur. Voilà. Et ces fautes sont excessivement.
Et les yeux marrons.
Alors les yeux marrons ou les chaussures orange, ce sont des yeux de la couleur du marron, d'un marron, ou ce sont des chaussures de la couleur de l'orange. Alors ensuite, et là je reviens toujours à mes dictionnaires.
C'est pour ça qu'on met pas d'ess à marron ni à orange.
Ni à orange. On met pas d'ess. Hein, faut bien préciser. Mais alors il y a des exemples, il y a des exceptions, les célèbres exceptions toujours en langue française. Alors je crois Muriel, tu vas me corriger si. Et à mauve, je crois qu'on met quand même un s. Enfin.
Et à rose aussi.
Et à rose aussi. Voilà.
Donc, fleur,
alors là on revient au dictionnaire.
Écarlate, mauve.
Voilà.
Thibaut de Saint-Maurice, est perdu là.
Faut
perdu.
Pardon, mais ça n'a aucun sens.
On va la reprendre.
Les marrons. Non, mais je veux dire que la règle existe, c'est bien ça. Mais même l'argument de l'unité sémantique, aujourd'hui, quand on utilise marron pour qualifier la couleur des yeux, pour les gens, c'est d'abord une couleur et c'est avant d'être le fruit de l'arbre.
Jean-Joseph Julot. Marron,
oui, oui. On est totalement perdu.
Non. Vous voyez, vous êtes perdu parce que vous avez là une masse d'informations qui vous tombe dessus. Mais si vous vous dites chaque jour, eh bien, je vais prendre l'accord de marron, etc.
Revenez. Il faut que je mange des fruits, des légumes. Il faut que je fasse 30 minutes de marche à pied. Il faut que je trie mes déchets.
C'est l'idée du petit jeu.
Diminuer de 10 minutes la marche à pied, vous faites 20 minutes de marche à pied, 10 minutes d'orthographe. Moi, je milite toujours pour que l'orthographe à l'école devienne, ou au lycée, devienne une discipline à part entière, et qu'il y ait une unité de contrôle d'orthographe au bac. Ça serait formidable. Mais si M. Blanquer m'écoute, eh bien voilà,
il
ce
nous
serait
écoute.
Génial, M. Blanquer.
Difficulté du pluriel des noms collectifs. Je pense, par exemple, à la foule. Est-ce qu'on doit dire une foule de manifestants à scander des slogans, ou une foule de manifestants ont scandé des slogans.
Alors, en général, l'article défini impose l'accord du verbe à la troisième personne du singulier. La foule des manifestants est arrivée. Hein. Une foule de manifestants, alors on va dire soit une foule de manifestants sont arrivés, ou une foule de manifestants est arrivée, tout dépend de ce que l'on veut signifier, soit la foule, soit les manifestants. Donc c'est clair quand même ça, monsieur le professeur de philosophie.
Oui, bien sûr.
Alors nous recevons beaucoup de messages sur la féminisation du langage.
Oula.
Que nous dit l'Académie française, Daniel Lacote? Vous recommandez dans votre livre une attitude pragmatique et non pas dogmatique en la matière.
Oui, c'est-à-dire que, alors il y a les grands enjeux, vous savez, parce que ça nous touche tous, alors faut-il dire une auteur ou une autrice? Alors moi je préfère autrice, pourquoi? Parce que il y a ce que nous appelons la morphologie du langage, c'est un peu pédant. C'est-à-dire que les mots en T-E-U-R ont souvent donné trice, et dans la même catégorie, un auteur, une autrice, un illustrateur, une illustratrice, un réalisateur, une réalisatrice, un correcteur, Muriel, une correctrice, etc., etc. Donc là, c'est à peu près clair. Un avocat, une avocate. Alors, bien sûr, il y a tous les mots qu'on ne peut pas féminiser, comme juge, etc., etc. Et médecin, médecine. Bon, on ne va pas dire la médecine.
Docteur.
Et donc, docteur, doctoresse, qui existe, comme tu le sais,
depuis très longtemps. Doctoresse en droit,
oui,
une docteur,
mais
voilà.
On avait aussi, vous le savez,
c'est
tous les deux, on avait
autoresse.
On avait autoresse aussi.
Et sur les titres et les fonctions, au féminin?
Les deux fonctions féminines, alors il y a les fonctions, il y a les grades. Bon, on dit très facilement dans l'armée, on dit très facilement maintenant commandante. Alors il y a le problème aussi de maréchal ou pas maréchal, il y a le problème de général ou pas général, la générale. Il y a le problème du maire, puisque surtout Ali, ne dites pas que Anne Hidalgo est la mairesse de Paris, la mairesse c'est l'épouse du maire. Oui. Et le problème se pose avec l'ambassadeur, ambassadrice aussi, oui. Donc voilà, tout ça c'est, mais du bon sens.
Et de la bonne volonté.
Et de la bonne volonté.
Et Fred nous dit, la lecture est sans doute le meilleur moyen d'apprendre la langue par mémorisation. Vous êtes d'accord avec
c'est
ça
vrai, ouais.
Oui, mais justement, ce qu'il a dit par mémorisation, c'est que la mémoire fonctionne par la répétition. Mmh, et ouais. Si on trouve un mot, éventuellement, on peut l'écrire 50 fois, c'est pas une punition. On peut changer de couleur pour les consonnes qu'on maîtrise.
La lecture est un phénomène de reconnaissance, c'est-à-dire on a connu un mot, on le lit et on le reconnaît.
Allez, vous reviendrez, hein, Daniel Lacote, 100% zéro faute, est publié chez First. 10 règles de français pour faire 99% de fautes en moins, c'est signé Jean-Joseph Julot en poche chez Poinceuil. Muriel Gilbert, encore plus de bonbons sur la langue, c'est publié à la librairie Vuibert. Dans quelques instants, nous enregistrons une émission intitulée « À quoi reconnaît-on quelqu'un de bien ? Qu'est-ce qu'une personne gentille pour vous ? Donnez-nous des exemples sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. » Demain, nous recevons le grand historien Michel Pastoureau qui publie un nouveau livre consacré à une couleur d'actualité, le jaune. Qu'évoque pour vous cette couleur ? Est-elle présente dans votre vie quotidienne ? La détestez-vous ? Racontez-nous votre goût ou dégoût pour le jaune citron, le doré ou le moutarde, très à la mode en ce moment. 01 45 24 7000.